J'ai amené un sac à dos. Je crois que vous connaissez bien cette thématique, cher à notre pasteur. Alors, je vais sortir mon message quand même. Alors, je ne vais pas vous dire qui, mais on m'a demandé de vous apporter une réflexion sur un texte long et difficile. Et en fait, cette réflexion s'est transformée en une exhortation à vivre l'espérance dans ce monde qui est troublé. Alors Arthur, tu as envoyé le texte, je vois. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, pour un texte long et difficile, il n'y a que trois versets. Et avec trois versets, je dois tenir le temps qui m'a été donné. Mais là, la question se pose, c'est que nous dit le texte? Et là, je vous retourne la question. Connaissez-vous l'approche et l'attitude à adopter pour l'étude d'un texte? Il y a trois principes. Le pasteur ne prend pas de notes, mais peut-être que, vu les réponses, il organisera une formation sur ce thème prochainement. Non, pas de courageux ni courageuse. Alors la prière, merci. Il y a l'étude du contexte, du texte. Et puis, il y a l'éclairage du texte par d'autres textes de la Bible. C'est les trois principe essentiel lorsque vous étudiez un texte à la maison. Alors, c'est par cette approche que je vous propose le thème de ce matin. Alors Arthur, si tu peux envoyer le thème. Voilà, merci Arthur. Dieu le Père, le grand renversement. Alors, pour nous conduire dans ce thème, je vous ai pris un sac à dos. Alors, là, c'est un vrai sac à dos que je vous ai amené. Hein. Pas de ceux qu'on nous a montrés précédemment. Celui-là, il fait 70 litres. Bien chargé, il fait dans les 30 kilos. Donc, vous imaginez monter l'école avec ça. C'est comme si vous étiez au fond du lac Léman, en scaphandrier. Mais moi, quand j'étais enfant, j'avais un petit sac à dos, comme notre pasteur. Un petit sac à dos pour aller à la plage. Et dans ce sac à dos, j'avais mes Lego, notamment. Et puis, avec les années, ces Lego ont été remplacés par les sports de montagne. Mais surtout, mes parents ont mis dans mon sac à dos la loi de Dieu, les 10 commandements. Alors là, on se dit, ça, alléluia. Avec les lois de Dieu dans le sac à dos, il n'y a pas de raison d'aller tout casser à Genève aux frais du contribuable, n'est-ce pas? On se dit, c'est fantastique. Mais voilà, il y a un hic. Il y a un hic parce que lorsque vous avez la loi de Dieu dans votre sac à dos, mais que vous n'avez pas Dieu dans votre cœur, sur le long terme, ça pose un problème. Parce que le sac à dos, comme je l'ai là, il devient de plus en plus lourd, de plus en plus gros. Et c'est lourd à porter. Et puis, lorsqu'on réussit de temps à autre, à l'un de ces 10 commandements, on a plutôt tendance à se dire, je suis quand même fort, hein. Je suis quand même pas si mauvais que ça. Et puis, c'est l'ego qui en prend. On prend pour ça, pour soi. L'ego, le moi-je, hein, c'est notre égocentrisme, c'est notre nombril dont on se regarde. Et puis dans cette situation, dans cette attitude, eh bien, jusqu'au boutisme, hein, eh bien, on en vient à ne plus supporter le sac à dos. On en vient à déposer les armes. Et c'est là qu'on en témoigne de notre faiblesse. Et c'est là que Dieu intervient. Et c'est là le grand renversement de Dieu. C'est là que Dieu nous parle. Et il nous parle au travers de Christ. Christ qui s'est manifesté à la croix. Et c'est à ce moment-là que nous sommes régénérés par l'Esprit. C'est par la résurrection de Christ que nous recevons son Esprit. Et nous sommes transformés. Cependant, j'ai quand même une question importante à vous poser. Que représente pour vous le sermon sur la montagne? Dans votre vie chrétienne, dans votre vie spirituelle? La réponse à cette question est très importante. Pourquoi? Parce que le sermon sur la montagne, c'est le cœur de l'Évangile. C'est le cœur de notre vie chrétienne. Et cette bonne compréhension qui nous aidera à nous introduire dans le texte de jour, c'est le verset 17 du chapitre 5. Ce verset 17, il est central dans le chapitre 5 et dans le sermon sur la montagne. Je le lis. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et en quoi Christ accomplit la loi? C'est justement en nous rejoignant au travers de nos faiblesses, en se rapprochant de nous, et en portant la loi qui nous pesait, qui était dans notre sac à dos. Et c'est l'apôtre Paul, en Romains 8, qui en parle très bien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Et donc, lorsque nous sommes appelés à suivre Jésus, je crois que c'est le thème de cette année, nous sommes associés à sa résurrection et nous recevons son Esprit. C'est bien cette position et identité en Christ que nous témoignons lors de notre baptême. Je crois qu'il y a quelques candidats cette année. Romains 6, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors vous allez peut-être me dire, certains se sentent en difficulté, que bien qu'on soit appelé à suivre Jésus, nous avons de la difficulté à vivre la loi, à porter ce sac à dos, et que vous avez de temps à autre des combats spirituels. Eh bien, c'est bien, moi, je vois que je ne suis pas le seul si c'est le cas. Et dans cette situation, nous sommes peut-être appelés à nous dire... suis-je chrétien? Ou bien encore, suis-je en présence du Dieu dans ma vie? Et la réponse est oui. Rien que par le fait qu'on se pose la question, tout simplement. Et nous avons également une bonne nouvelle. Dieu a envoyé son Fils pour nous décharger du sac à dos, mais également que nous puissions mieux le porter, mieux le vivre. Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Cependant, il y a une autre dimension. C'est que Dieu se préoccupe principalement du porteur du sac à dos. Ça, c'est encore mieux. Dieu a créé l'être humain comme un potier façonne un vase, à la fois beau et utile pour lui, dans le seul but qu'il rayonne dans son cœur. Jérémie 18, « Vous êtes dans ma main comme de l'argile, dans la main du potier. » Et on trouve aussi ce thème dans 2 Corinthiens 4, « Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Ainsi donc, la loi n'a pas pour vocation de nous rendre le cœur pur et de le vivre uniquement en communauté, mais plutôt que par un esprit nouveau dans nos cœurs, la manifestation de la loi dans nos vies soit un témoin de la gloire de Dieu, en somme que nous soyons sel et lumière dans ce monde. C'est-à-dire vivre avec les valeurs du royaume aux yeux de ce monde. C'est également la mission donnée aux Hébreux lorsqu'ils s'apprêtaient à rentrer dans le royaume donné par Dieu. Nous lisons en Deutéronome 4, « Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles. » Et c'est Moïse qui parle. « Comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? L'aide-nous toutes les fois que nous faisons mal, appel à lui. Et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Porteurs d'espérance dans un monde troublé, telle est donc notre mission, notre vocation. Alors, je conçois que ce n'est pas simple, parce qu'il y a de forts paradigmes pour certains, et la peur de l'inconnu pour d'autres. Aussi, les uns vont construire des murs anti-immigration. Il en existe 70 aujourd'hui dans le monde. Alors que, à l'époque de la guerre froide, il n'en existait qu'une dizaine. Et puis d'autres vont créer des lois pour refouler l'étranger, pour se protéger. Alors qu'à l'inverse, le grand renversement de Dieu est de partager au contraire le pain quotidien. C'est le sujet de notre texte. Avec les faibles et les pauvres, en prenant exemple sur Jésus, distribution de pain et de poisson, partage d'une cruche d'eau avec la femme samaritaine. Et l'ironie veut que les samaritains que les Israélites avaient rejeté, eh bien, pourquoi? Parce qu'ils les jugeaient impurs par rapport à la loi. Ainsi, un peuple, une communauté, un individu transformé par l'Esprit de Dieu, reçu par l'existence de Jésus, doit aspirer à vivre la loi de Dieu comme un outil d'évangélisation, de témoignage, au travers de ses propres faiblesses. Ce n'est pas lorsque tout va bien que les gens nous regardent, c'est lorsque nous sommes dans la difficulté. 2 Corinthiens 12, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ et rien d'autre. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le grand renversement de Dieu est donc la manifestation de sa puissance au travers de nos faiblesses, stimulées par la loi. Servant d'outil d'évangélisation auprès des plus forts dans ce monde. Mais cette pédagogie de Dieu va à l'encontre de l'esprit du monde, n'est-ce pas? Les Juifs attendaient un libérateur de l'occupation romaine dans l'espoir de revivre les gloires passées de David et de Salomon. Et tout comme aujourd'hui, où des nations désignent des hommes providentiels et opportunistes, dans l'optique de retrouver leur gloire passée, mais révolue. Alors qu'ils cherchent en vain tout à se maintenir au pouvoir par la division des peuples d'après leur culture, leur idéologie, leur couleur de peau. Et à l'inverse de Jésus, nous exhorte à appeler l'étranger notre frère en Matthieu 5. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres d'un autre peuple n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et ce renversement de Dieu renverse les logiques humaines. Il ne s'agit pas de conquérir le monde par la force ou une guerre économique, mais de transformer les cœurs en acceptant la croix et la résurrection de Christ. Et donc la faiblesse apparente de la croix devient la plus grande victoire de Dieu sur le péché et la mort. C'est donc la volonté de Dieu que son règne se manifeste sur la terre comme au ciel, que Jésus-Christ serve de passerelle entre ciel et la terre pour rejoindre celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Valais pour marcher sur une passerelle himalayenne. Ce temps de vacances, c'est peut-être l'occasion. Et il y en a une qui est particulière, c'est celle du glacier d'Aletsch. Elle fait 124 mètres de long et une hauteur de 80 mètres. 80 mètres pour les Neuchâtelois. Et lorsqu'il y a du monde, lorsque la journée avance et puis il y a du vent et il y a ce poids du sac à dos, il y a de quoi perdre l'équilibre et de prendre le vertige. Mais heureusement, il y a une balustrade de chaque côté. Il y a un fil, un câble d'acier. Et lorsque nous sommes appelés à suivre Jésus, à marcher sur la passerelle, entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel, nous avons également des moments de faiblesse, de combat spirituel. Et la loi, tout comme la balustrade, a pour objectif de nous retenir, de ne pas tomber dans le vide. Nous pouvons ainsi avancer dans notre vie chrétienne en apprenant à dépendre de Dieu dans une attitude d'humilité, tout comme nous dépendons de lui pour recevoir notre pain quotidien. Ainsi, dans les circonstances de la vie, nous voyons que la loi est morale, c'est ce que nous avons vu dans Matthieu 5, la loi est sociale, mais également spirituelle, puisqu'elle sert de pédagogue. Dans le dictionnaire Le Petit Robert, qui est le pendant du Larousse, Le petit Robert nous indique que le contraire de pédagogue, c'est disciple. Alors, vous me voyez venir, hein ? C'est-à-dire que lorsque nous acceptons Christ comme sauveur, la porte menant à Dieu le Père, Christ nous libère de la contrainte du pédagogue. Nous venons disciples de Christ. À présent, le disciple conduit par Christ accomplit volontairement ce qu'il faisait précédemment par crainte du pédagogue, de la loi. Alors, prenons un exemple concret qui est bien d'actualité. Si dans la piscine, penserez à cela cet été, nous avons du mal à nager, nous prenons une bouée, n'est-ce pas ? Et en tant que celle de la terre, lorsque nous sommes dans cette piscine, dans cette soupe qu'est le monde, si nous n'avons pas de bouée de commandement, ben notre préoccupation est uniquement de nager pour nous maintenir en surface. Et nous portons l'attention de ne pas faire le mal. Et nous faisons du surplace. Nous n'avançons plus sur le chemin de Christ. Nous n'avons plus la foi. Nous n'exprimons plus notre foi en Christ. Mais en prenant la bouée, les commandements, la bouée se préoccupe de nous garder en surface. Alors nous portons l'attention à faire le bien. Nous pouvons avancer sur le chemin de notre foi en Christ. Avec cette perspective, la bouée, les garde-fous, ne nous gênent absolument pas. Nous n'y pensons pas parce que nous avons un objectif. Nous sommes appelés à suivre Jésus. C'est en avançant dans cette perspective que nous sommes protégés par notre marche en avant. Nous ne sommes plus obnubilés par la crainte de tomber, la crainte de tomber par notre péché révélé par la loi. Et dès que je quitte le chemin de l'Esprit-Saint, eh bien la loi redevient cette barrière de protection. C'est lorsque nous sommes en rébellion, lorsque nous sommes dans des conflits intérieurs, dans des combats spirituels, que la loi redevient une barrière. Et cet état de faiblesse dans nos vies vient du fait que lorsque nous marchons, nous sommes appelés à suivre Jésus, il y a la notion du déjà. Nous sommes sauvés par la croix et régénérés par l'Esprit de Dieu, et la notion du pas encore. Puisque nous sommes en chemin, notre régénération n'est pas complète, que nous recevrons lorsque nous serons ressuscités au retour de Christ. Et c'est ce que nous avons lu avec le passage d'Ézéchiel. Un Jean 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Peut-être que certains d'entre vous ont lu ou regardé à la télé les romans de Marcel Pagnol. Un bon sujet de vacances, ça aussi. Non. Affaire. Alors, il y a Les Lettres de mon moulin, La Dame aux Camélias, Le Château de ma mère et La Gloire de mon père. Et ce dernier me touche particulièrement, car il me rappelle la relation d'authenticité que j'entretenais avec mon père, fait de complicité et d'admiration pour un homme intègre et droit, et avec une conscience professionnelle hors du commun, et un amour inconditionnel pour son épouse. Puis un jour, il me fit part de sa faiblesse dans les moments importants de ce soutien envers moi. Ce fut un moment fort émouvant dans mon estime envers lui, Et mon estime envers lui fut encore plus grand devant son humilité et son authenticité. Il y a beaucoup de papas ce matin, des grands-papas. N'y a-t-il pas là une similitude avec l'action de notre Père céleste envers nous, nous poussant à rechercher une relation authentique, à exprimer par notre prière envers le Père? Hébreux 12. Puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons à respecter, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, aux premiers abords, toute correction semblable semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard, tant chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, la justice. Alors je reviens à ma question initiale. Quelle est votre compréhension du sermon sur la montagne? Comment l'assimilez-vous dans votre vie spirituelle, dans votre vie chrétienne? Alors je vous laisse personnellement à répondre à cette question. Et je conclue en reprenant dans la prière les trois versets de ce jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen.